Kiosque Magazine. Vendredi 19 juin 2015. Bon matin tout le monde et bienvenue à cette édition de Kiosque Magazine sur la culture et les loisirs. Geneviève Patterson de retour au micro juste avant ses vacances et je suis en excellente compagnie aujourd'hui en compagnie de Jean-Philippe. Bonjour Jean-Philippe.
Bon matin Geneviève.
Et puis de Charles Roy. Bonjour Charles.
Bonjour.
Ça va bien?
Oui, très bien, merci.
Oui. Alors aujourd'hui, de quoi est-ce qu'on parle,
Jean-Philippe? Ben, on en parle depuis déjà deux semaines. En tout cas, pour ma part, les francopholies, là, ça se termine cette fin de semaine et je vais vous parler de Pierre Lapointe aujourd'hui parce qu'il y a un gros spectacle qui avait lieu hier soir ce soir. On reviendra là-dessus. Je vous parlerai aussi de cinéma et d'émotion. Il y a un film d'animation très attendu qui sort en salle aujourd'hui et qui me fait vraiment rire. Donc, j'ai hâte de vous en parler. Et je vous parlerai aussi du rose en art visuel. C'est une nouvelle tendance, mais c'est pas ici. Mais je vous en reparlerai tout à l'heure.
D'accord. Okay. Et toi, Charles?
Moi aussi, en cinéma, je vais vous parler d'un film qui s'appelle La virée... Je vous parle du film Phoenix. Je vous parle aussi de La virée d'Al Capone, une pièce de théâtre qui sera joué à Sherbrooke, dans les environs de Sherbrooke. Mm-hmm. Je vous parle de la programmation estivale de Papineauville. Mm-hmm. Et puis finalement, une exposition d'hommes forts.
Super! De mon côté, je vous parle de musique, de surprises, de télévision, encore une fois de musique et de musique encore. Je suis tout en musique aujourd'hui. Bonne émission tout le monde!
J'y étais pas, mais il fallait y être, c'est ça?
Allez, pour Pierre Lapointe. Être, mais malheureusement, il fallait avoir des billets. Les billets se sont envolés rapidement. Donc, je vous parle de son spectacle qui avait lieu hier et ce soir, mais il n'y a plus de billets. Donc, je vous avertis.
Wow. Un grand succès, déjà.
Exactement. Mais Pierre Lapointe et les francopholies, c'est une histoire d'amour. Et c'est ce qu'on peut lire ce matin, d'ailleurs, dans le journal du Cahier Week-end du Journal de Montréal la semaine passée, donc du 13 juin, si je ne me trompe pas, voilà. Donc, c'est depuis 2002, en fait, Pierre Lapointe a participé à plus de 23 spectacles différents dans le cadre des francopholies. Et il dit que c'est presque trop, parce que c'est quasiment gênant pour lui. C'est comme ça qu'il en parle avec l'auteur de l'article, Raphaël Gendron-Martin. Alors, encore une fois, cette année, l'auteur, compositeur, interprète remet ça avec un nouveau spectacle, piano-voix seulement, qui s'appelle Paris Tristesse, comme son dernier album. Depuis plusieurs années, Pierre Lapointe s'éclate véritablement aux francopholies qui lui permettent de lâcher son fou créativement, plus que partout ailleurs. En 2005, il livrait Pépiphonique, plutôt. L'année d'après, c'était au tour de Pierre Lapointe voix bleue et Pierre Lapointe voix rouge. En 2008, il revenait avec Mutantes et l'an passé, il s'amusait à travers les statues de cire dans un concert au musée Grévin. Très particulier. Et les Franco ont toujours permis de faire des affaires folles. C'est comme ça qu'il en parle. Ce sont souvent des choses qui ne sont pas possibles que dans des contextes de festival. Et Laurent Saunier et son équipe ont plutôt favorisé ce type de spectacle dans mon cas. Et je vais toujours leur en être reconnaissant. C'est ce qu'il dit aussi dans l'article. Cette année, donc, ce nouveau spectacle de Pierre Lapointe sera peut-être un peu moins éclaté, mais il n'en sera pas moins intéressant et donc livré à la Maison Symphonique en formule piano-voix. Son spectacle Paris Tristesse risque d'être empreint d'émotion. Alors, je vous rappelle que l'article a été écrit la semaine passée, que la première était hier soir, donc on en parle un peu au futur dans l'article, mais la première a déjà eu lieu. Alors, il a déjà mentionné qu'il a fait ce spectacle une cinquantaine de fois en Europe depuis l'an passé. C'est un projet qui est arrivé à maturité, qu'il maîtrise très bien aujourd'hui. Et quand on a commencé ce spectacle-là à Montréal, eh bien, il se disait qu'il serait heureux si on remplissait un soir à la Maison Symphonique. Et finalement, on a ajouté une supplémentaire et les gens se sont rapidement emparés des billets restants. Alors, très intéressant pour lui. Il y a quelques jours, le chanteur a d'ailleurs fait parler de lui dans l'Hexagone pour son passage à l'émission On n'est pas couché de Laurent Ruquier. L'émission qui est regardée par un peu plus de 1,5 million de téléspectateurs a grandement circulé sur les réseaux sociaux. Il s'attendait à ce qu'il y ait de grosses répercussions parce qu'on n'est pas beaucoup de Québécois à y être allé, c'est ce qu'il mentionne. Et l'émission qui a eu un très gros impact, semble-t-il, parce qu'il a reçu beaucoup de demandes de télé depuis en France. Alors, très bonne nouvelle. L'an passé, sa chronique qu'il faisait à France Inter rejoignait 1 million d'auditeurs. Son spectacle à guichet fermé à l'Olympia de Paris avait aussi reçu des très bonnes critiques, tout comme son album Punk également, qu'il a sorti il y a quelques années ici au Québec. Pierre Lapointe, qui poursuivra ses nombreux allers-retours cet été des deux côtés de l'océan avec quelques festivals européens. Il fera la première partie de Chemical Brothers et de Christine and the Queens au Festival des Vieilles Charrues. Festival très sympathique de nom, du moins. Et donc, cet automne, il sera aussi de retour au Québec avec Claudine Prévost pour la nouvelle émission Stéréopop, qui était initialement appelée Powwow. Et finalement, on sait aussi que son spectacle à la Maison Symphonique, c'est ce soir et c'était hier soir. C'est complet, malheureusement, mais je pense que ceux qui seront là vont avoir une très belle soirée. Exactement.
je pense à hier, quand je pense à demain, quand je ferme mes yeux jusqu'au petit matin, quand je couche mon corps tête pointant le nord et que je sens mon dos rappelant le troupeau, quand les funérailles de balais, là où les gens baillent en anglais, font que même la vieillesse en prend de paresse, finit par doubler le masque d'Orphée, quand l'hypocrisie est de mise entre la peau et la chemise, que la rivière coule et que tout déboule malgré le sang et les dents qui cassent. Non, je ne parlerai pas. Oh non, je ne parlerai pas. Car il y a une rivière qui a poussé entre nous, même si la terre tout entière ferme les yeux et s'en fout. Et si un jour tu y plonges, moi j'y plongerai avec toi, pour noyer dans la pénombre la grandeur de nos ébats. Et si la terre tout entière se met à rire de nous, nous leur lancerons des pierres pour graffiner nos genoux. Mais non, jamais, mais oui, je sais que je ne parlerai pas, bouche gelée, jusqu'à ce que nos deux corps soient enterrés. Alors non, je ne parlerai pas. Oh non, je ne parlerai pas. Pour toutes les grand-mères de la terre, celles qui partiront dans le vent, celles qui partiront pour la guerre, armées d'enfants. Moi, j'ai rongé les sabots de l'âme pour oublier que l'on oublie toutes ces obscénités qu'on a préarrangées, que même un pape outré ne pourrait condamner. Alors non, je ne parlerai pas.
On vient d'entendre Pierre Lapointe pointant le nord. Mm-hmm. Je vous amène maintenant à Coaticook, où Laura Martin a écrit son article dans La Tribune, La crue des eaux alcoolisées. C'est intriguant,
n'est-ce
pas?
C'est de la crème glacée?
Non, c'est de la crème glacée fondue, non.
C'est aussi la première chose à laquelle je pense qu'on parle
ouais.
À Coaticook.
Ben non, mais c'est l'été. Cet été, en fait, vous pourrez voir une pièce de théâtre sur la prohibition. Ça a été publié le 11 juin dernier. La vie a encore une fois déversé sa douce ironie. Dame Nature a choisi de noyer Coaticook alors que le présentateur météo d'ici Radio-Canada, Estrie, s'apprête à y amorcer son emploi d'été loin des cartes radar. La crue ne change pas par contre rien à ses plans. Il a ouvert un débit de boisson avec la première de la virée d'Al Capone, c'est comme ça qu'est intitulé le spectacle. Un spectacle hybride entre conte, théâtre et humour sur l'histoire de la Prohibition. Personne ne peut jurer que le plus célèbre gangster américain a déjà mis le pied en Estrie, mais plusieurs témoignages s'accordent pour dire que ces hommes ont traité de ce côté-ci de la frontière et qu'il aurait lui-même passé ses vacances là-bas. Stéphane Roy y croit. Stéphane Roy, c'est lui l'animateur de Météo. Toutefois, si son one-man show porte son nom, le célèbre Scarface ne sera pas au centre de son monologue, non. Il a préféré gratter les petites histoires anecdotiques qui se cachent derrière la grande histoire de Sutton à East Hereford de 1848 à 1930. Les petits contrebandiers créatifs qui trouvaient toutes sortes de stratagèmes pour approfondir leur fin de mois sont eux qui m'intéressent. Ceux qui cachent de l'alcool dans une grange, ce maire qui a ouvert la première distillerie de Quaticook, leurs histoires sont ridicules quand on les considère aujourd'hui, dit le Quaticookois de souche qui, au fil de ses recherches, s'est même découvert une parenté avec un des plus grands contrebandiers. Ben oui. Pendant 8 mois, le passionné d'histoire a recueilli des témoignages et a fouillé des archives. Le communicateur qui avait hésité entre la voix de la radio et celle du théâtre au cégep a choisi de partager ses découvertes avec une rassade d'humour. Il y a 2 façons d'aborder le sujet. De son côté sombre et violent et de son côté folklorique et drôle. J'étais plus à l'aise dans cet esprit. Il y a eu 2 histoires de meurtres dans la région, mais ce n'est pas le Far West ici. Les gens vont apprendre des choses, mais ils vont surtout être divertis. Ils seront aussi hydratés puisque les spectateurs seront accueillis avec une cruche de bière de la microbrasserie à leur table. Ben, fait intéressant. Ça fait partie de l'expérience, suggère celui qui se fera conteur dans un décor de caisses, de barils et de bouteilles Bagos. Le spectacle La virée d'Al Capone de Steve Roy est un spectacle à la grange ronde du parc de la gorge de Quaticook tous les soirs du 26 juin au 22 août.
Tout à l'heure, je vous parlais de surprise. Eh bien, on retourne en musique. Il y a Elisabeth Péloquin qui s'est confiée au journal 24 heures d'hier. Elle a pu assister au concert de U2 après avoir mis la main sur une paire de billets que l'humoriste Louis-José Houde avait cachés au Parc Laurier. En effet, l'humoriste Louis-José Houde a créé tout un émoi en organisant, mercredi dernier, dans les rues de Montréal, une chasse au trésor improvisé dont la récompense était 2 paires de billets pour aller voir U2 au Centre Bell. Alors, personnellement, je comprends l'engouement d'Elisabeth Péloquin parce que moi-même, je suis allée voir U2 mercredi et je peux vous dire, les gars et les auditeurs, que c'était incroyable. Alors, c'est un article de Judith Plamondon. Et c'est sur Facebook que l'humoriste a annoncé à ses fans qu'il avait caché les précieux billets valant chacun 300 $. Une paire était dissimulée derrière la grande bibliothèque et l'autre dans le parc Laurier. L'engouement a été instantané. Plus de 5000 personnes ont aimé sa publication et des centaines d'entre elles ont dit vouloir partir à la chasse pour mettre la main sur l'étiquette. Ce sont de coquets billets dans les rouges, section 112. Chaque paire est dans une enveloppe blanche. Il ne s'agit pas ici d'un gag, a écrit Louis-José Houde dans son appel à tous. L'humoriste a raconté avoir acheté ses billets sur un coup de tête. Avec le spectacle de la fête nationale qui s'en vient et qui l'anime, je n'ai finalement aucunement le temps d'y aller et de courir après des amis qui veulent y aller, a-t-il dit. Et écoutez, moins de 15 minutes après qu'il eut lancé sa chasse au trésor, 2 chanceuses criaient « Mission accomplie ». J'étais en voiture sur le plateau Mont-Royal, pas très loin du parc Laurier, lorsque mon ami a vu la publication sur Facebook, raconte Elisabeth, âgée de 23 ans. Eh bien, après 3 minutes plus tard, oui, Elisabeth et son amie Julie Champagne débarquaient en courant dans le parc Laurier. Très vite, elles ont trouvé les billets convoités qui étaient cachés sous un banc près de la rue Boyer. Je capotais. Mon ami et moi sommes des fans finis de U2. C'est une super coïncidence, dit Elisabeth Péloquin. On chante toujours Sunday Bloody Sunday ensemble. Madame Péloquin raconte avoir vu plusieurs personnes accourir en émoi dans le parc Laurier dans l'espoir de voir Bono et sa bande en concert. On a même vu des cols bleus de la ville de Montréal tenter leur chance, rigole la jeune femme. Du côté de la grande bibliothèque, les 2 billets étaient cachés sous un banc derrière l'édifice. C'est Annabelle Montplaisir qui les a dénichés. « Merci Louis-José, notre journée de filles a pris tout un 180 degrés », a-t-elle écrit sur la page Facebook de l'humoriste. Quel beau geste!
In the name of love.
YouTube. J'ai vu la publication de Louis-José Houde, mais il était malheureusement trop tard. Ça faisait une demi-heure, je me suis dit, ça se pouvait pas. Il en restait plus. On parle d'art visuel maintenant. Mm-hmm. On va parler du rose, parce que, bon, le rose, semble-t-il que c'est la nouvelle tendance avec Think Pink. C'est Jérémy Bellemare qui invite les gens à dialoguer avec l'espace. Et ça, c'est dans un article du Devoir de Jérôme Delgado qu'on peut lire ça. Ça a été publié le 17 juin dernier. Pardon. Alors, la population du Saguenay qui voit rose, alors depuis le début du mois de juin, il y a un jeune artiste local qui s'appelle Jérémy Bellemare, je le rappelle, qui s'est entiché de couvrir d'une pellicule rose une bonne part de l'armature en acier du pont Sainte-Anne qui traverse la traverse piétonnière, en fait, et cycliste qui relie les deux rives à Saguenay. Alors, ça peut être assez particulier comme visuel, ça c'est certain. La population qui voit et pense rose, l'artiste qui a donné un titre à son enrobage qui doit rester là tout l'été, Think Pink. Alors, c'est très simple. Quand il marche, qu'il observe les rues, le paysage, il imagine toujours l'espace autre. Et Think Pink, c'est un petit peu ça. C'est d'inviter les gens à voir le monde d'une manière différente, à dialoguer avec l'espace. Mmh. Alors, l'intervention au-dessus de la rivière Saguenay consiste en une série de X qui se succèdent sur toute la longueur du pont. Elle a nécessité quelques 25 rouleaux de ruban de 100 pieds chacun en longueur et une semaine d'installation. Alors, c'est la moitié du temps qu'il avait prévu. C'est quand même pas si mal. Et bien avant sa matérialisation, le projet a cependant tenu son homme assez fort occupé quand même. 2 ans de recherche, des plans techniques et financiers inclus, beaucoup de discussions. De patience également, l'appui qui est venu en premier lieu du Centre d'art actuel Bang de Chicoutimi et des conseils des arts du Saguenay et du Québec également. Il y a un petit peu de Christo et Jean-Claude aussi dans le travail du jeune artiste natif de Montréal, étudiant la maîtrise en art à l'Université du Québec à Chicoutimi. Comme pour le célèbre couple qui a notamment recouvert le Pont-Neuf à Paris en 85, Jérémy Bellemare donne une grande importance au processus de création, que le résultat final ou sa diffusion soit de plus courte durée que ce que l'a précédé importe peu. Le processus est au cœur du projet. Il faut expliquer et être en dialogue avec la population, les politiciens, le milieu des affaires, le milieu artistique également. Le processus, ce sont les gens, les discussions, les sourires, et ça me touche énormément, c'est ce qu'il dit également. Alors, l'emballage rose prend ses origines dans l'incendie qui a enflammé la structure voisine, le pont du Buc, en décembre 2013. L'incident qui a coupé la ville en deux et obligé les automobilistes à faire un détour de 2 heures, on se le rappellera tous. Et le seul moyen, en fait, de traverser la rivière à la hauteur de Saguenay, c'était d'emprunter le vieux pont Sainte-Anne, interdit aux voitures depuis 40 ans. Et l'artiste ne tenait pas à reproduire le feu, mais la grande solidarité qui a paradoxalement rapprocher les gens. Alors, pendant 3 semaines, 17 000 personnes ont marché à moins 40 degrés Celsius. Des stations de radio offraient du café. Il y avait toutes sortes de choses comme celle-là. Alors, Jérémy Bellemare qui a choisi de travailler le motif de la croix parce qu'il symbolise la rencontre. Il s'agit également d'une forme facilement reconnaissable qui ne nécessite pas vraiment d'explication. On reconnaît la croix et semble-t-il qu'on va on va reconnaître le rose également sur le pont.
On voit la vie en rose.
Voilà.
T'aimerais que la terre ait un bord où tout tombe, une fin quelque part. Qu'on n'ait plus à compter sur l'agent secret Bond, ce raciste en costard. T'aimerais que l'hiver soit là et puis s'arrête, l'été n'est pas pour tous. Qu'on n'ait plus besoin de faire un brin de toilette, puisqu'il n'y a plus d'eau douce. T'aimerais que l'Afrique désormais à son tour écrive les droits de l'homme. T'aimerais si et puis t'aimerais ça, tout à la fois t'aimerais si et puis t'aimerais ça. Mais je peux bien te le dire, y'a pas de si, pas de pause, pas de répit, pas de temps. Est-ce qu'on est si peu de choses, ou pas si mécontent? Pas de rêve qui nous cause, pas de rêve ou pas longtemps, ou que l'être humain se pose, est-ce le temps qu'a pas le temps?
T'aimerais que nos zones tiennent une vraie couche, plus de terre abîmée. Sous les pavés, la mer, les mots de Monsieur Bush, c'était de la fumée. T'aimerais, mais chaque jour qui passe est un jour, et pas un élastique. Le temps ou le tam-tam, c'était pas un tambour, et l'argent pas du fric. T'aimerais mes deux frères qu'ont pas la même peau, sans qu'un innocent et l'autre porte le chapeau. T'aimerais si et puis t'aimerais ça, tout à la fois. T'aimerais si et puis t'aimerais ça, mais je peux bien que le dire.
Y'a pas de si, pas de pause, pas de répit, pas le temps. Est-ce qu'on est si peu de choses, ou
pas assez mécontents. Pas de rêve qui nous cause, pas de rêve ou pas longtemps, ou que l'être humain se pose, et c'est tant qu'il n'y a pas de temps.
Qui nous vend des poussettes quand y a pas de vaccin, qui nous envoie des sacs mais jamais la recette, la notice sans le dessin. J'aimerais leur dire que les jours de défaite sont des jours de ciel bleu. Pour l'instant sortons parapluie, c'est jour de fête. Petit Africain, il pleut.
Y a pas de si, pas de pause, pas de répit, pas de temps. Est-ce qu'on est si peu de choses ou pas assez mécontent? Pas de rêve qui nous cause, pas de rêve ou pas longtemps, ou que l'être humain se pose, et ce tant qu'il n'y a pas de temps. Et ce tant qu'il n'y a pas de temps,
qu'il n'y a pas de temps.
Et ce tant
qu'il n'y a pas de temps,
qu'il n'y a pas de temps.
On vient entendre Zebda. C'est quoi déjà le titre de la chanson? C'est...
Tu peux toujours courir.
Tu peux toujours courir.
Je crois, oui.
Oui. Maintenant, ça fait quelques éditions de Kiosque Magazine où je dresse le portrait estival d'une région. Mm-hmm. Et maintenant, on se dirige à Papineauville. Benoît Sabourin, dans le droit, nous a dressé ce portrait.
C'est où Papineauville, Charles? Excuse-moi.
C'est une bonne question. Ah non, je t'aurais
donc,
pas dû poser
cette
question.
Donc, à chaque région, un article. C'est très bien, d'ailleurs, Charles, comme initiative. Je t'en félicite.
Merci.
Mais où est Papineauville?
On va chercher où c'est. Et en attendant... En attendant, je vais débuter mon article. Les citoyens de Papineauville et les gens de passage sur le territoire de la municipalité n'auront pas le temps de s'ennuyer durant cette période estivale. Que vous soyez touriste ou résident, on vous invite à venir nous voir cet été. On vous attend avec une belle brochette d'activités, autant au niveau de la culture, des arts, des sports et du patrimoine, a lancé le maire Christian Beauchamp. Les festivités s'amorceront le 24 juin avec la venue de l'ex-académicien Martin Giroux, qui se produira en soirée avec son groupe dans le cadre de la fête nationale, bien sûr. Des activités familiales auront lieu durant toute la journée avant le concert. Et le premier festival de bateaux dragons au profit de la résidence La Monarque se déroulera pour sa part le 1er août. Des équipes de 20 pagayeurs s'affronteront pendant toute la journée lors des courses de 200 mètres organisées sur la rivière des Outaouais, près de la marina des Montfortin. Donc, on imagine que c'est en Outaouais.
C'est exactement ça.
Voilà. Toujours en août, du 5 au 9 août. Le mondial de la Ligue Soccer Junior Petite Nation se déroulera sur les terrains de la municipalité. Un peu plus de 650 joueurs prendront part à ce tournoi qui signe en quelque sorte la fin de la saison du ballon rond dans la région. L'épluchette de maïs annuelle organisée par la Corporation des loisirs de Papineauville-Saint-Angélique se dérouleront, eux, le 16 août au parc de l'édifice Jeanne d'Arc. Le groupe Générix assurera la portion musicale de l'événement ouvert gratuitement à tous. Oui?
Oui, j'allais juste rajouter que Rémi, notre cher metteur en ondes, Rémi, vient de me faire signe que Papineauville, ça se trouve plus précisément à l'ouest de Montebello.
Ah, merci beaucoup. Merci, Rémi. La compétition tire de VTT, chapeautée par le club Quad Papineau, fait un retour cette année. La quatrième édition de cette activité tiendra destinée aux amateurs de puissance et de bolides à quatre roues se tiendra le 22 août au terrain de la balle Papineauville. Autrement, le rendez-vous des arts revient lui aussi les 29 et 30 août au parc Henri Bourassa. 30 artistes visuels de l'Outaouais, peintres et sculpteurs, exhiberont leurs œuvres au grand public durant la fin de semaine. À noter que Vue sur l'art reprend aussi de plus belle pendant tout l'été pour une deuxième année consécutive. L'église de Papineauville sera ainsi une fois de plus transformée en une gigantesque galerie d'art du 27 juin au 30 août. Une quinzaine d'artistes y exposeront des œuvres grand format. Donc, c'est à Papineauville. Si vous êtes dans le coin, ben, je pense que ça vaut le détour.
«
c'est à mon tour maintenant. Un article dans la section culture du journal 24 heures d'hier. En nomination au prix Gémeaux, les beaux malaises dominent. Alors, en début d'émission, je disais que j'allais parler de télévision. Eh bien, voilà, la série Les beaux malaises vient en tête des nominations. La comédie sur les ondes de TVA domine la course en vue des prix Gémeaux. La série de Martin Matt étant citée à 18 reprises en vue de la soirée, qui sera animée par Véronique Cloutier et Éric Salvaille le 20 septembre prochain. Les productions dramatiques Nouvelle Adresse et Unité 9 de Radio-Canada suivent avec respectivement 17 et 15 citations, a-t-on appris lors du dévoilement des finalistes de la Grande Fête de la télévision. Cette année, en plus de l'édition anniversaire, le gala est marqué par l'adoption de nouvelles règles de sélection des finalistes et par le retour de Julie de Production J et Fabienne Larouche d'Aesios, je crois, deux joueurs importants de l'industrie. Cela permet à des émissions à succès comme La Voix, Le Banquier et Unité 9 d'obtenir des nominations dans les catégories régulières. La troisième et dernière saison de 19-2 est retenue 14 fois, alors que les quotidiennes 30 vies et En thérapie obtiennent respectivement 13 et 12 citations. Donc, c'est à suivre. Et puis, la bande-annonce du film d'animation La Guerre des Tuques 3D est maintenant disponible. Vous pouvez aller la voir sur la page Facebook de Énergie et de Super Écran, de même que dans les cinémas.
Très bien, il reste quelques secondes, ça me donne le temps de vous dire que au Jardin botanique, vous le savez, tous les week-ends de l'été, on accueille des artistes. Et bien, ce dimanche, c'est Marie-Jo Thériault qui s'y produira. Elle sera là à 14h. L'adresse, c'est le 4101 rue Sherbrooke-Est. C'est jusqu'au 30 août que le Jardin botanique accueillera ses artistes. On se laisse le temps d'une courte pause, on revient dans deux petites minutes. Restez des nôtres.
Vous écoutez Kiosque Magazine.
Et oui, on est de retour cette fois-ci en cinéma et je vous parle du film Phoenix. En fait, c'est pas moi qui vous en parle, ce sont les mots de François Lévesque dans Le Devoir, paru le 13 juin. La troisième femme. Nelly a survécu à l'horreur. Elle a vécu au camp, dans la clinique de reconstruction faciale où elle a abouti après avoir été laissée pour morte dans un charnier, le chirurgien lui suggère de repartir en neuf avec un nouveau visage. Rien n'y fait. À travers un masque compact de gaz, elle profère un « nine » sans appel. Elle veut son visage d'avant, sa vie d'avant. Dans un Berlin dévasté au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, l'ancienne chanteuse de cabaret cherche désespérément Johan, alias Johnny, ce mari qui l'a trahi mais qu'elle aime encore. Elle le trouve, mais ce dernier, convaincu que Nelly a péri à Auschwitz, ne la reconnaît pas. Vous l'aurez compris, c'est pas drôle du tout, c'est un drame, et ça vient d'Allemagne. Ainsi débute Phoenix, le récit d'une reconnaissance, comme l'indique le titre, qui fait par ailleurs allusion au nom d'un bar mal fermé. Ô combien complexe, ô combien fascinante, la suite se révèle-t-elle? Il y a d'abord la Nelly anonyme du début, avec ses yeux sans visage, pour citer le classique de Georges Franju, ici dûment honoré. Vient ensuite la Nelly qui partage une ressemblance troublante, mais pas à l'identique avec la Nelly d'autrefois. Cette Nelly que Johnny, cupide quoique la conscience coupable, recrute pour personnifier la riche jeune femme qu'il croit avoir envoyée à la mort. Elle joue le jeu. Émerge cette mystification, la troisième Nelly, à la fois celle qu'elle n'est plus et celle qu'elle ne sera désormais jamais. Cela étant, si Phoenix hante le cinéphile et ce longtemps après la projection, c'est en bonne partie grâce à l'interprétation de sa vedette, Nina Hoss, qui collabore pour une cinquième fois avec le cinéaste. Cette actrice est absolument sensationnelle, écrit-on, dans le rôle de Nelly, le personnage métaphore de l'Allemagne. Femme à la personnalité broyée, Nelly doit se rebâtir à l'instar de son pays, autrefois qu'en se cherchant dans le regard d'autrui. Elle y arrivera, car elle a d'ores et déjà survécu à l'horreur. Ce film est entre autres à l'Excentris jusqu'au 25 juin. Je vous le répète, le titre, ça s'appelle Phoenix.
Mmh. c'est quoi ta tune qui me revient dans les oreilles tout le temps? C'est moi, j'ai plus le même temps comme avant. Plus le temps comme avant pour remplir mes oreilles. Dis-moi, c'est quoi ta tune qui me revient comme le soleil tout le temps? Quand tu viens, c'est jamais pour longtemps.
On entend bien sûr Harmonium Dixie tiré de l'album Si on avait besoin d'une cinquième saison. Cet album-là, paru en 75, a été classé par le magazine Rolling Stones au 36e rang sur 50 des meilleurs albums progressifs de tous les temps, mercredi dernier. Ouais. L'album qualifie, le magazine qualifie l'album d'apogée de tout le mouvement folk prog, entre autres grâce à ses harmonies vocales et la guitare sursautante de Serge Fiori. Oui. On reste en cinéma, Jean-Philippe?
Oui, ben oui. Écoute, on retourne en cinéma. On va parler d'un film d'animation qui est très attendu par plusieurs enfants, comme toujours. Des films d'animation, c'est toujours vers les enfants qu'on s'adresse. Mais celui-ci pourrait s'adresser aussi aux parents quand même. C'est le film Sans dessus dessous. C'est l'ABC de l'esprit humain. C'est comme ça qu'on en parle dans le journal La Presse. Un article d'André Duchesne qui est paru d'ailleurs le 15 juin dernier. Alors, comment fonctionne la pensée, surtout dans les moments les plus troublants de la vie? C'est un vaste sujet qu'on tend toujours sa part de mystère. Mais pour Pixar et Disney, on s'est mis en tête de nous illustrer l'ABC de l'esprit humain dans Inside Out, donc Sans dessus dessous. Un film dont les vedettes animées s'appellent Joie, Tristesse, Colère, Peur et Dégoût. Alors, c'est dans l'esprit de Riley, qui est une petite fille de 11 ans, Joie, qui est la capitaine de ses émotions. Aux commandes du centre de contrôle de ses pensées, Joie laisse parcimonieusement de la place aux autres émotions, que ce soit la peur, la colère, la tristesse et le dégoût, lorsque c'est nécessaire. Tout va bien depuis la naissance de l'enfant, mais au moment où elle déménage au Minnesota, à San Francisco, joie et tristesse sont éjectées hors du centre de contrôle aux grandes dames des trois autres émotions qui, impuissantes, assistent au dérèglement de l'humeur de la jeune fille. Alors, dans un cerveau qui est soudainement en pleine pagaille, joie et tristesse entament un voyage épique pour retrouver leur père, traversant alors les autres parties de l'esprit de Riley, sa mémoire à long terme, ses rêves, son imagination et ses pensées abstraites. Alors, c'est 6 ans après le film Là-haut, du titre original anglais Up, le tandem Pete Docter, réalisateur, et Jonas Rivera, producteur, remettent ça avec un film d'animation traitant avec originalité d'un sujet qui, somme toute, est un classique du cinéma familial, l'incontournable passage de l'enfance à l'adolescence. Monsieur Docter, qui l'a souvent répété, c'est en observant sa propre fille de 11 ans changer d'humeur et devenir plus introvertie qu'il a senti l'idée du film germer en lui. Alors, nos émotions qui nous aident à composer avec la vie de tous les jours, c'est ce qu'il lance en conférence de presse, et cela dit, ce projet fut pour moi un concept longtemps avant de se développer en une histoire. Au risque de verser dans les gros clichés, il est évident que chacun va retrouver consciemment ou non une part de lui-même dans le film. Si les parents en ressortent émus, Pete Docter va sans doute se sentir valorisé. Rien ne m'a plus ébranlé dans la vie que cette expérience d'être parent. J'en tire encore des leçons chaque jour, alors je pense que tous les parents qui iront voir le film avec les enfants pourront probablement se reconnaître dans les propos du réalisateur. En amont du tournage, l'équipe du film a mené de longues recherches afin d'en savoir plus sur les émotions. Il n'y a pas eu de consensus pour en déterminer le nombre, en fait. Leur consultant principal, le Dr. Paul Ekman, en proposant en fait 6 émotions pour le film, les 5 déjà nommées et la surprise, mais ils ont finalement laissé ces dernières sur la touche, estimant que visuellement, la surprise se rapprocherait trop de la peur alors que ce serait une émotion déjà travaillée. Bon, restait la distribution. On voulait de catégorie A, évidemment, Amy Poehler qui incarne Joie, entouré de Mindy Kaling, Bill Hader pour la peur, Phyllis Smith et Lewis Black. On sait qu'au Québec, ici, ces émotions sont représentées par Charlotte Lebon pour Joie, Sonia Vachon pour Tristesse, Xavier Dolan pour la peur, Réal Bossé pour la colère et Edith Cochrane pour le dégoût. Alors évidemment que c'est un film qui s'adresse à tout le monde. C'est toujours très drôle d'aller voir des films d'animation et je trouve que c'est très sympathique d'aller toucher les émotions dans ce style-là, d'aller voir qu'est-ce qui se passe dans le cerveau humain. C'est toujours intéressant. Je vous rappelle que le film sort en salle d'ailleurs aujourd'hui dans tous les bons cinémas au Québec.
Alors, de retour en musique, je vous parle de la Music House sous le signe de Wolfgang. C'est un article qui a paru la semaine dernière dans le cahier Week-end du journal Métro. En fait, le week-end passé, au Théâtre Corona, le groupe que j'aime beaucoup, Clean Bandit, s'est produit. Et puis, en 2014, on rappelle que le quatuor Classico House britannique avait vendu plus de disques à l'échelle planétaire que One Direction. Phew! Genèse d'une rencontre déterminante à Cambridge, c'est par Michael Oliver Harding. Donc, mêlez l'œuvre intemporelle de Mozart avec de la house rehaussée d'autotune. Difficile de trouver un croisement plus postmoderne que ça. Voilà le point de départ de Clean Bandit, un quatuor de jeunes vingtenaires britanniques qui se sont rencontrés en 2006 à l'Université de Cambridge. Il y a Neil Amin-Smith, le violoniste et pianiste qui faisait partie d'un quatuor à cordes, et son amie Grace Chateau, une violoncelliste et musicienne de formation classique avec qui il organisait des populaires soirées National Rail Disco sur le campus. Lorsqu'ils ont fait la connaissance de Jack et Luke Patterson, eh bien, deux frangins au goût plus jazz et électronique, l'idée est née de créer un alliage accrocheur entre instruments à cordes et lignes de basse robustes. Près d'une décennie plus tard, le paysage musical a bien évolué. Avec leur premier album New Eyes, leur tournée à guichet fermé, leur collaboration avec Marie Nan de Diamonds et Alicia Keys et leur récent Grammy pour la meilleure pièce dance électronique pour Ratterby, Clean Bandit s'est taillé une place au sein d'une jeune cohorte exportant le son de l'Union Jack bien au-delà de ses frontières. Je crois qu'il y avait tout un potentiel inexploité dans la Music House qui n'avait jamais été si populaire, mis à part pendant une brève période dans les années 90, nous a dit Neil Amin-Smith alors qu'il s'apprêtait à lancer la portion nord-américaine de sa tournée. Tout ça découle de Disclosure, qui a produit un album fou et qui a donné aux mélomanes le goût de s'intéresser de nouveau à la house. Le quatuor sillonnera la planète cet été, il s'est arrêté à Montréal le week-end passé, affichant l'insouciance et l'esprit léger qui caractérisent les vidéoclips à grand déploiement que les musiciens créent eux-mêmes grâce à la compagnie de prod qu'a fondée Jack et Grace. Aux yeux de Neil, un des arrêts les plus décisifs de la tournée sera le festival Glastonbury, où Clean Bandit se produira sur la deuxième scène principale. Ce sera notre plus grande performance à vie, d'annoncer le violoniste non sans fébrilité. C'est juste un festival de musique, mais l'impact d'une participation là-bas est énorme. C'est la pierre angulaire de la culture britannique. C'est télévisé à l'échelle nationale. Il y a 160 000 personnes sur place et ça domine les manchettes culturelles. C'est un rite de passage pour les jeunes Anglais. Clean Bandit, mesdames et messieurs. Toujours vivant de Jerry Boulet, mais pourquoi cette chanson après avoir parlé de House, Jean-Philippe et Charles? C'est bien simple, c'est que c'est la fête des pères en fin de semaine.
Ah ben oui.
Alors c'est un clin d'œil bien particulier que je décerne à tous les papas, mais plus particulièrement à mon papa, qui m'a toujours dit dans les moments plus difficiles, Geneviève, écoute cette chanson-là, toujours vivant, va de l'avant. Jerry Boulet qui a écrit cette chanson-là peu de temps après avoir appris qu'il avait un cancer. Alors une grande force émane de Jerry Boulet et tu nous parles d'homme fort maintenant, Charles.
Ben oui, pour rester dans la force. À Trois-Rivières, on inaugurait mardi la plus récente exposition du Musée québécois de culture populaire « En chair et en muscles, deux points, le phénomène des hommes forts québécois ». C'est François Houde, dans le Nouvelliste, qui écrit ces mots, publiés le 17 juin dernier. Si le concept de culture populaire n'est pas clairement défini par tous, il sera facile de convenir que le phénomène des hommes forts s'y inscrit. L'exposition s'attache notamment à démontrer que le phénomène est gravé dans notre folklore et dans notre culture depuis le début de la colonie. Pays dur et exigeant pour ceux qui ont relevé le défi de le développer, il a tout naturellement favorisé le développement et l'essor des hommes forts, les plus aptes à dominer leur environnement. Que ce soit dans les chantiers de coupe, de bois l'hiver ou sur la terre pendant les beaux mois, les hommes étaient contraints de miser sur leur force et leur résistance physique pour assurer leur survie. Pas étonnant que l'homme fort ait pris beaucoup de place dans l'imaginaire et dans les récits québécois. Les Joe Montferrand et autres modestes Maillot, géants de Saint-Pierre de Bérec, auréoles d'exploits fantastiques, mais dont on a pu douter la véracité, côtoient les frères Baillargeon, le grand Antonio, Hector Descaries, Victor Delamare ou Hugo Girard, des athlètes dont les exploits sont nettement mieux documentés. À la frontière des deux mondes, Louis Cyr, héros parmi les héros, qui appartient à la légende, mais sur la base d'exploits bien réels et vérifiés. Toute une portion de l'exposition traite des concours contemporains d'hommes forts avec leurs exigences et leur rigueur qui s'oppose au récit du passé. La pièce maîtresse de l'exposition est sans contredit l'impressionnante statue de plâtre de Louis Cyr qui a servi à la confection de celle en bronze installée dans le Parc des Hommes Forts à Montréal. Bien que l'intérêt pour les hommes forts soit plus souvent masculin, Geneviève Larouche, celle responsable de l'exposition, est convaincue que c'est une exposition qui s'adresse à tous. Elle sera en montre jusqu'au 11 septembre 2016.
De retour en musique, je vous parle de la pop noire de Grand Blanc. C'est un article qui est paru lundi dernier. Grand Blanc est en spectacle ce jour-là sur la scène Ford des Francofolies et en première partie de Fauve le 16 juin dernier. Alors, entre désœuvrement magnifié et urgence exaltée, la formation française Grand Blanc revisite une certaine esthétique 80s. C'est un article de Claude André dans le journal Métro. pop noir, cold wave, héritier de Bachung, descendant de Joy Division, qu'importe les étiquettes qu'on lui accorde, la formation française Grand Blanc distille un climat électropop glauque mais captivant. Discussion avec Benoît David, le parolier et une des deux voix de la formation. Donc, d'où vient le nom Grand Blanc? Eh bien, de partout et de nulle part à la fois. Nous venons du nord-est de la France. Certes, on n'y trouve pas les hivers canadiens, mais il gèle quand même, il y a beaucoup de neige. Le côté hivernal et froid était donc essentiel pour illustrer notre approche. Quelle était votre ligne directrice lorsque le groupe a été constitué il y a 2 ans? On venait de quitter Metz, en Lorraine, notre ville natale, pour aller étudier à Paris. Du coup, la question de savoir d'où on venait s'est posée, même si ce n'est pas une ville où il se passe beaucoup de choses. On commençait à sortir de notre adolescence et on s'interrogeait sur notre identité tout en voulant passer à l'âge adulte. Lorsqu'on regarde vos vidéoclips, la thématique du désœuvrement est omniprésente. Oui, clairement, nous ne sommes pas des gens négatifs, mais nous avons concocté un disque assez noir, assez hargneux, parce que nous voulions régler certaines questions, explorer d'une manière plus vive, une manière de vivre, oui, dans un univers plutôt sombre. Le désordre étant, en quelque sorte, notre matériau. Complétez la phrase suivante. Le sentiment d'urgence permanent dans la musique de Grand Blanc est imputable à l'incapacité du discours à exprimer les choses par rapport à la vie. On prend la langue pour penser, pour être, pour saisir le monde. On la tord dans tous les sens, mais ça ne veut pas toujours dire quelque chose. Donc, de la musique jaillit une manière de s'exprimer qui est plus proche de ce qu'on ressent vraiment. Vous dites faire de la pop noire. Nous utilisons la référence à ce genre musical underground, même si nous ne sommes pas un groupe très indie ou lo-fi. Notre musique est produite proprement et nous appartenons à un label de musique populaire. Cependant, nous aimons employer certaines références underground. Bref, refaire les choses à notre manière en y intégrant la pop. C'est une façon de frayer avec le kitsch, avec le loufoque et de jouer avec la mesure et la démesure. Ce qui est cool quand tu fais une musique qui n'est pas vraiment toi, c'est qu'elle devient partageable. Si c'est juste des épanchements sur du papier et une guitare, personne n'en fera rien.
J'ai besoin de toi comme d'une infirmière. Quand je me demande ce que je fous ici et que je colle ma tête pendant des heures sur l'oreiller. Tétanisé, assommé, incapable de rien. J'en ai marre de faire semblant. J'en ai marre de faire comme si tout me glissait dessus. J'en peux plus d'entendre les sirènes, même à travers le double vitrage.
Décidé à sortir parce que je supportais plus d'être chez moi. Je suis allé rejoindre des gens dans un de ces pubs irlandais merdiques qu'on trouve sur les grands boulevards. À une table sur ma gauche, il y avait un groupe de filles, dont une qui m'a tout de suite plu. Elle était un peu mate de peau, mais avec des cheveux châtain clair ou blond foncé, je sais jamais. Mais surtout, elle avait l'air douce, bienveillante et sereine, comme si elle avait pas renoncé à rien, comme si elle avait jamais douté de la beauté du monde ni de celle des hommes. Je me suis fait quelques films, osés mais jolis, restait tout de même à établir le contact, ce qui est impossible à faire en réalité. On nous le fait croire dans les films, mais c'est une vaste arnaque. Ça m'est retombé dessus d'un coup, je me suis senti seul, triste et fatigué. J'y arrive pas sans toi, j'arrive plus à encaisser. Comment est-ce que ça va se finir? Comment est-ce que je vais faire? J'ai besoin de toi comme d'une infirmière. Que tu répares ma tête et mes sentiments qui fonctionnent plus bien. Que tu refasses mes stocks de sérotonine, que tu me dises que c'est rien. J'ai compris que tu voulais pas de moi pour l'instant. Mais je me force à croire qu'avec du temps, tu changes d'avis. Et dans la nuit, je rêve encore que tu m'emmènes danser jusqu'au matin. Sur la musique, on va, on vient, on s'éloigne et on revient. Puis tu t'élances et je te tiens, je te retiens du bout des doigts pour te ramener contre moi. Sur la musique, on va, on vient, corps contre corps, main dans la main. Plus rien n'existe, plus rien de rien quand je te tiens du bout des doigts pour te ramener contre moi. Tiré de mes pensées de la pire façon possible, une grande plaque sur l'épaule, le truc que je déteste, envoyé par un genre de rugbyman pas très discret, un gars que je connaissais un peu. Alors ça va l'artiste, il me dit, les amours, tout ça. D'ailleurs au concert tu dois bien te faire plaisir mon salaud, le genre de chose qui met tout de suite super à l'aise, qui te rapproche encore un peu plus de l'eunuque dans son harem. Je lui réponds que ça c'est soit un mythe complet, soit c'est moi et mes petits camarades qui sommes des manches. Évidemment il se met à me charrier, il me dit que c'est pas possible, que j'ai un problème, que je suis pédé. Pauvre vieux, si tu savais combien de fois je me suis posé la question, sincèrement, qu'est-ce qui déconne chez moi? Pourquoi dès qu'il y en a une qui est gentille, je me barre en courant? Ça m'est retombé dessus d'un coup, je me suis senti seul, triste et fatigué. J'y arrive pas sans toi, j'arrive plus à encaisser. Comment est-ce que ça va se finir? Comment est-ce que je vais faire? J'ai besoin de toi comme d'une infirmière. Que tu me dises que je suis hors de danger, que mon état va s'améliorer. Que tu passes ta main dans mes cheveux, que tu prennes ma vie pour en faire quelque chose de mieux. J'ai compris que tu voulais pas de moi pour l'instant, mais je me force à croire qu'avec du temps, tu changes d'avis. Et dans mes nuits, je rêve encore que tu m'emmènes danser jusqu'au matin. Sur la musique, on va, on vient, on s'éloigne et on revient. Puis tu t'élances et je te tiens, je te retiens du bout des doigts pour te ramener contre moi. Sur la musique, on va, on vient, corps contre corps, main dans la main. Plus rien n'existe, plus rien de rien quand je te tiens du bout des doigts pour te ramener contre moi.
J'ai besoin de toi comme d'une cigarette ou d'un verre à chaque fois que je dois sortir dans la foule. Je me dis que ça peut pas être comme ça, qu'il doit y avoir autre chose. Jusqu'ici, j'ai pas trouvé des tas de raisons d'exister. Mais j'ai besoin de croire en quelque chose de profond, de solide. J'ai besoin d'être porté par un espoir. Je voudrais faire l'effort permanent et sublime. Je voudrais être à tes côtés, simplement.
Il nous reste quelques minutes pour vous parler de brève, des événements courts, mais ils sont pas courts ces événements-là. On va vous en parler de façon courte. Ouais, c'est ça. À Trois-Rivières, on a procédé jeudi à l'implantation officielle d'une première micro-bibliothèque sur le territoire. Le projet initial mené par l'organisme La Démarche des premiers quartiers vise à implanter 10 de ces petites cabanes à livres sur le territoire. Avec la collaboration des propriétaires, elles sont installées sur des terrains privés et l'organisme s'assurera d'assurer l'approvisionnement en livres qui seront aussi gratuitement mis à la disposition du public. On suggère l'idée d'échange par laquelle quelqu'un s'amène un livre dans la boîte au moment d'en emprunter un autre. Les micro-bibliothèques seront nourries par des livres ou revues de tout genre en bon état pour le public et, dans le fond... Oui, j'ai terminé ma brève. J'allais couper une phrase, mais c'est à Trois-Rivières.
Suggestion de sortie familiale, des films pour toute la famille au Théâtre Outremont à partir depuis mardi, en fait. Donc, la fin des classes approche et si vous cherchez une sortie familiale pour le début de l'été... Le Théâtre Outremont propose, du 23 juin au 5 juillet, des films pour toute la famille. On passe de Paddington, Aurélie Laflamme, Astérix, et mardi, c'était l'extravagant voyage du jeune et prodigieux T.S. Spivet qui a lancé le bal.
Alain Dumas, qu'on connaît comme humoriste, comme comédien, comme acteur, va aussi faire renaître Sinatra. Alors, c'est dans une tournée qui s'appelle 100 ans de Sinatra, au cours de laquelle il va donc revivre les plus grands succès du célèbre crooner américain. Alors, il a plusieurs cordes à son arc, évidemment, et depuis un an, il travaille avec le producteur Mario Bazinet, un fan fini de Sinatra lui-même, qui a eu l'idée de mettre sur pied une production québécoise pour célébrer le célèbre crooner américain qui aurait soufflé 100 bougies cette année s'il n'était pas décédé. L'occasion était donc parfaite pour lui de réaliser un rêve qu'il caressait depuis déjà de nombreuses années. Flanqué de 10 musiciens et de la choriste Nancy Fortin, Alain Dumas offrira pour l'occasion rien de moins qu'une trentaine de ses plus grands succès. Et donc, vous pourrez le voir un petit peu partout au Québec. Donc, cette semaine, ça a commencé à l'Assomption. Il y a des dates aussi de prévues à Belle-Oeil, à Sainte-Agathe et cet automne à Montréal du 8 au 11 octobre au Cabaret du Casino de Montréal.
Il y a le Festival international de cirque de Vaudreuil-Dorion qui bat son plein dès aujourd'hui jusqu'au 23 juin. Dans la plus pure tradition du cirque européen, le Festival international de cirque reçoit notamment pour sa 11e édition le russe Andrei Jalikalov, un des plus grands clowns du monde, dit-on, en plus d'accueillir le fils et la petite-fille de Charlie Chaplin ainsi que Mitchell Winehouse, invité d'honneur. Les détails, festivaldecirque.com.
C'est la journée estivale des enfants, samedi de 9h à 15h au parc Arthur-Terrien, près de l'Auditorium de Verdun. des classes de planche à roulettes, des jeux gonflables, kiosques de maquillage et courses ou marche à pied de 5 km. Les profits seront versés à la campagne de lutte contre le cancer infantile. Donc, ces activités offertes au cours de cette journée organisée par les clubs optimistes du district Centre du Québec.
Merci Geneviève.
Au plaisir.
C'est ce qui conclut
l'émission.
Voilà. Merci à Rémi à la mise en onde. Merci Geneviève. Merci Charles.
Merci tout le monde.
Bonnes vacances.
Bonnes vacances. Oui, merci. Moi, je vais être en vacances. Et puis, je m'en vais à la ronde tout à l'heure. Donc, amusez-vous bien tout le monde, vous aussi.
Bonne journée et à la semaine prochaine.
Ouais. Au revoir. Au revoir.